Vous écoutez, on lit pour vous.
Vers un réchauffement d'au moins 4,3 degrés centigrades à Montréal. Un texte d'Alexandre Shields paru le 28 mai 2024 dans Le Devoir. La lenteur des États à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre risque de provoquer un réchauffement qui dépassera facilement les 4 degrés centigrades dans le sud du Québec bien avant la fin du siècle, prévient le groupe d'experts en adaptation au changement climatique, GEA, mandaté par le gouvernement Legault. Les gouvernements du Canada et du Québec ont beau répéter que leur objectif est de respecter l'objectif mondial de limiter le réchauffement à 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, à l'instar des autres pays signataires de l'accord de Paris, la réalité est que la hausse des températures pourrait être, pour ainsi dire, deux fois plus importante au cours des prochaines décennies. En supposant que tous les États de la planète respectent leurs engagements actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, le réchauffement devrait dépasser les 2,8 degrés centigrades d'ici 2070, voire 2100. A souligné mardi Alain Webster, professeur à l'Université de Sherbrooke, président du Comité consultatif sur les changements climatiques et co-président du GEA. C'est un mauvais scénario qui ne nous conduit pas vers un climat stabilisé, a-t-il prévenu. Surtout, un tel scénario impliquerait une hausse des températures de 4,3 degrés centigrades dans le sud du Québec et de 6,1 degrés centigrades dans le nord. Cela signifierait que les épisodes de chaleur extrême en été seraient plus intenses et plus longs. Il y a une décennie, on comptait une moyenne annuelle de 3 journées à plus de 32 degrés centigrades. On pourrait passer à plus de 20 jours d'ici 2040, puis à près de 50 jours avant la fin du siècle, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec. Selon le rapport Perspective régionale, financé par le gouvernement fédéral et rédigé principalement par des experts du consortium scientifique Ouranos, au-delà de certains seuils, ces températures peuvent provoquer des problèmes de santé comme des coups de chaleur et de la déshydratation et sont liées à des taux de mortalité plus élevés. Le rapport souligne du même coup que les principaux groupes vulnérables sont les personnes âgées et les personnes plus jeunes qui ont déjà des problèmes de santé, notamment de santé mentale, ainsi que des personnes vivant dans des milieux défavorisés. Les régions les plus peuplées de la province seraient aussi confrontées à des périodes de forte baisse des niveaux d'eau qui risquent d'affecter la disponibilité et la qualité de l'eau potable au Québec. Sans oublier un risque accru d'inondations en période printanière, mais également des menaces pour la résilience des écosystèmes et de la biodiversité. Le Québec serait en outre plus vulnérable aux feux de forêt, mais aussi aux cycles de gel et de dégel qui affecteraient des infrastructures importantes et coûteuses comme les routes. La montée des eaux, l'érosion côtière et la submersion frapperaient aussi les régions maritimes, avec des conséquences importantes, notamment en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Gestion de risque. La perspective d'un réchauffement de cet ordre est implausible. Il y a urgence de prévoir des mesures d'adaptation, a insisté M. Webster. Cela implique notamment d'accroître substantiellement le verdissement dans les milieux urbains afin de faire face aux canicules, mais aussi aux précipitations fortes à prévoir. Le coprésident du GEA, Alain Bourque, estime aussi urgent de mettre en œuvre les recommandations formulées au gouvernement du Québec, notamment en ce qui a trait aux infrastructures. Nous n'avons pas le choix d'être réalistes par rapport aux différents scénarios qui peuvent se produire en matière d'émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, si on construit une infrastructure de longue durée de vie, il faut en tenir compte dans notre gestion des risques. Nous ne sommes pas convaincus que nous allons parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 degré centigrade, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut tout faire pour maintenir les objectifs prévus dans l'accord de Paris, parce qu'en matière d'adaptation, ce sera plus facile en matière de protection de la santé humaine et des écosystèmes naturels, a fait valoir mardi Alain Webster. Le dérèglement provoqué principalement par notre dépendance aux énergies fossiles atteint déjà 1,2 degré centigrade et, au cours de la dernière année, il a même dépassé temporairement 1,5 degré centigrade, un seuil qualifié d'avertissement brutal sur l'urgence des mesures à prendre pour limiter le changement climatique par l'Institut Grantham sur le changement climatique de l'Imperial College London. Selon l'Observatoire européen Copernicus, la limite de 1,5 degré centigrade pourrait être hors d'atteinte dans à peine plus de 10 ans. Mais cette hausse des températures mondiales, qui est deux ou trois fois plus importante au Canada, n'est rien en regard de ce qui nous attend. Le réputé quotidien britannique The Guardian a publié plus tôt en mai une enquête inédite dans le cadre de laquelle il a sondé 380 auteurs et collaborateurs du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, qui ont contribué au rapport produit depuis 2018. Près de la moitié des collaborateurs du GIEC interpellés par The Guardian affirment que le réchauffement dépassera les 3 degrés centigrades et 58 scientifiques envisagent un réchauffement qui se situerait entre 3,5 degrés centigrades, 33 répondants, et un seuil dépassant les 4 degrés centigrades, voire 4,5 degrés centigrades, 21 répondants. C'était vers un réchauffement d'au moins 4,3 degrés centigrades à Montréal, un texte d'Alexandre Shields paru le 28 mai 2024 dans Le Devoir.
Les cafés moussent à travers un contexte économique difficile au Québec. Un texte de Roxane Léouzon paru le 20 août 2024 dans Le Devoir. La tradition consistant à travailler ou à socialiser dans un café, est loin d'être en voie de disparition, malgré le contexte économique difficile. Selon plusieurs propriétaires de cafés du Québec, les tasses de boissons chaudes ou froides, les pâtisseries et les sandwichs demeurent une gâterie abordable pour de nombreuses personnes, en dépit d'un budget plus serré. Le café, c'est le troisième lieu de vie. Il y a la maison, le travail et le café, indique Maxime Maillan, président-directeur général de Columbus Café et Compagnie Canada. Columbus Café, ça vous dit quelque chose? C'est un nom que vous risquez de voir de plus en plus sur les artères importantes et dans les allées de centres commerciaux dans les prochaines années. Il s'agit de l'antenne canadienne d'une populaire enseigne française qui possède près de 280 succursales en Europe. Son dirigeant, d'origine française, a ouvert son premier café en sol québécois en 2021 dans le plateau Mont-Royal, là où son logo à la tête d'ours risquait d'être reconnu par des compatriotes. Depuis, il en a inauguré 20 autres au Québec et en Ontario par le biais de son modèle de franchise. Monsieur Maillan est convaincu que les cafés chaleureux et accueillants sont encore des commerces d'avenir. Même si ce n'est pas l'avis de toutes les grandes enseignes. Pendant la pandémie, Starbucks avait fermé de nombreuses succursales au Canada, notamment au centre-ville de Montréal, dans le cadre d'un virage vers le service pour emporter et le service au volant. Columbus avait saisi cette occasion, s'installant dans au moins 5 des anciens emplacements du géant, notamment à l'angle des rues Sainte-Catherine et Crescent, ainsi que sur l'avenue du Parc près de l'avenue Laurier. Un autre Columbus va ouvrir prochainement à Mont-Tremblant et il remplacera encore une fois un Starbucks. M. Maillan a l'ambition d'être à la tête d'un réseau d'une centaine de cafés d'ici 2028. On a pourtant l'impression qu'il y a déjà beaucoup de cafés au Québec. La compétition est féroce. Le marché n'est-il pas saturé au moment où les consommateurs ont moins d'argent dans leur poche? Les gens qui ne peuvent plus se permettre d'emmener leur famille dans les restaurants, ils vont favoriser cette sortie. C'est moins cher et ça reste un plaisir. On déguste des produits préparés sur place et c'est gourmand, soutient M. Maillan, qui affirme que ses ventes sont en augmentation de mois en mois. l'achalandage au rendez-vous. Propriétaire de la chaîne de 14 établissements Café Morgan, principalement situés à Québec, à Trois-Rivières et à Drummondville, Michel Dagenais constate également que l'achalandage est au rendez-vous. Une 15e succursale doit ouvrir en décembre 2024 à Québec. On offre de beaux espaces. Ce sont des endroits où tu peux manger un sandwich, un gâteau et rester longtemps sans qu'on te dérange, affirme M. Dagenais. Plus de gens travaillent ailleurs qu'au bureau et ça nous aide. Propriétaire des trois emplacements Café Pista à Montréal, Maxime Richard tient un discours similaire. C'est un petit plaisir de se prendre un café. C'est l'occasion de rencontrer ses voisins ou de jaser avec un barista. Et le coût n'est pas percutant si on compare à un restaurant. Monsieur Richard constate toutefois que l'heure est davantage à la consolidation qu'à l'expansion, dans la catégorie des cafés de spécialité. Ce genre de petit commerce de quartier, axé sur le caractère unique et raffiné de l'offre de café, a explosé en nombre dans les 10 dernières années dans la métropole. L'entrepreneur estime que les grandes chaînes comme Starbucks ont perdu des plumes au profit de plus petits commerces. Mais ces derniers doivent maintenant se partager cette nouvelle clientèle, tout en jonglant avec l'inflation des produits et des salaires. Ça va bien, on n'est pas à plaindre, mais il faut rester créatif, affirme M. Richard. Un entre-deux. Le chef de Columbus Café et Compagnie Canada, lui, est convaincu d'avoir trouvé sa niche, ou plutôt sa tanière, comme l'entreprise aime appeler ses commerces. Il se situe comme étant à mi-chemin entre le café de quartier et la grosse chaîne. On travaille avec des produits locaux, on a des offres pour les commerçants du quartier, mais on n'est pas pointilleux sur les cafés. On a sélectionné deux mélanges, un pour le latte et un pour les espressos. Tout ça est 100% bio et éco-responsable, mais c'est fait pour plaire à un maximum de monde, dit-il, précisant que ses prix sont généralement 20% plus bas que ceux de Starbucks. Ses marges de profit sont relativement minces, dit-il, mais l'entreprise bénéficie d'un pouvoir d'achat rehaussé par le poids du nombre. M. Maillan a bien l'intention d'être en réinvention constante, misant sur l'ambiance aux couleurs vives et sur la qualité de l'offre de nourriture, dont le menu est renouvelé chaque saison. Les muffins sont la spécialité de ces établissements, l'offre étant constituée d'une trentaine de recettes, dont des saveurs originales comme spéculoos, matcha framboise ou brownie et noisette. Pour tous les cafés, le contrôle des coûts est un défi. Pour s'y attaquer, les cafés Morgan ont inauguré une cuisine centrale avec un petit centre de distribution, ce qui permet aussi d'offrir des produits innovateurs, estime M. Dagenais. Car, même si la clientèle est attachée au café du coin, elle pourrait hésiter et même passer son tour si jamais les prix augmentent trop. C'était « Les cafés moussent à travers un contexte économique difficile au Québec », un texte de Roxane Léouzon, paru le 20 août 2024 dans Le Devoir.
Le moulin à eau des éboulements en est à ses derniers tours de roue. Un texte de Jean-Louis Bordeloup, paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir. Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d'une certaine frilosité face à la modernité, des irréductibles pratiquent des métiers qui semblent sortis d'une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Suite de notre série « Métiers d'antan », aujourd'hui, le meunier. L'eau a beau couler toute l'année sous la roue du moulin des éboulements, dans Charlevoix, les affaires tournent au ralenti ces temps-ci pour Jean-Guy Tremblay. Le dernier meunier d'une longue lignée d'ouvriers qui remonte au 18e siècle n'a plus de relève. Et les clients aussi sont difficiles à trouver. Le métier lui-même est ainsi menacé. Le moulin des éboulements a peu de rides malgré ses 234 ans bien sonnés. Le bâtiment pourrait fournir chaque année 50 tonnes de farine par année sans misère, selon son meunier, âgé de 72 ans. La production normale avoisine plutôt les 30 tonnes. Malheureusement, cette année, la boulangerie du coin a cessé de lui acheter de la farine et celle-ci dort donc dans le silo. L'automne prochain, si le silo est plein à moitié, je ne le remplirai pas. Il n'y a plus de débouché. Jean-Guy Tremblay est le doyen des meuniers québécois. Lui-même descendant du premier propriétaire, Jean-François Tremblay, il a grandi dans ses murs un peu enfarinés. Il y vit encore aujourd'hui, dans un petit appartement qui jouxte la salle principale. Il dit se souvenir d'une époque où 60 poches de blé moulu s'entassaient sur le plancher en permanence. Aujourd'hui, si ça reste de même, c'est à peine de 10 à 15 poches de farine qui sortent chaque semaine de ses meules. L'une des rares au Québec à fonctionner toute l'année uniquement grâce à la force de l'eau. Seulement 7 moulins au Québec produiraient encore de la farine selon les méthodes ancestrales. Il en existe d'autres, mais la plupart survivent grâce à un modèle d'affaires muséal plutôt que commercial. La disparition de cette filière est due à l'absence de relève, mais aussi à celle de clients intéressés par une farine artisanale, souligne le meunier. Ça pourrait continuer s'il y avait des débouchés. Ça serait rentable si ça roulait à plein. Des gestes anciens, une qualité supérieure. Qu'elle soit blanche, entière ou de sarrasin, la farine monte et descend dans une série de convoyeurs avant d'atterrir dans les bacs finaux. Ici, tout tourne d'un seul mouvement. Si quelque chose coince, 3 étages de machinerie s'arrêtent. Les roues de fer du moulin charlevoisien sont coulées grossement, bien loin de la précision millimétrique d'aujourd'hui. La tradition orale fait remonter l'origine de cette mécanique aux forges du Saint-Maurice, le tout premier établissement industriel du pays. Cette méthode artisanale et laborieuse procure une qualité nutritive supérieure aux produits, explique Jean-Guy Tremblay. La farine, plus elle chauffe, plus elle perd de ses propriétés. En industrie, c'est moulu tellement vite que ça perd ses vitamines et protéines. Il faut alors rajouter des vitamines. Ici, elle est moins pressée. On est à environ 100 tours par minute. Elle ne sort presque pas chaude. Le blé est entier pour vrai. Les gestes des meuniers ont beaucoup gagné en simplicité depuis que l'eau est transformée en électricité avant d'en venir à broyer du grain. Eux autres pèsent sur un piton et ça part. Il y a des avertisseurs s'il se passe de quoi. Ici, il faut rester vigilant en permanence. C'est à la main qu'il empoche toute cette poudre. S'il quitte des yeux le bac final un peu trop longtemps, ce dernier risque de déborder et de tout perturber. Il doit aussi veiller sur les aléas de la nature. Jean-Guy Tremblay est toujours en train de surveiller si un arbre ou le gel ne vient pas bloquer les pales du moulin ou détruire le barrage. « Tu ne peux pas aller loin », résume l'homme encore très en forme. Jean-Guy Tremblay avoue ne cuisiner que très rarement du pain avec sa propre farine. Il n'utilise son produit que pour tester sa matière première, autrement dit, lorsqu'il change de blé. Et il prépare son pain grâce à une machine électrique. La maintenance. Le moulin des éboulements a déjà changé de vocation au fil du temps. Les meuniers précédents ont moulu durant des années le grain destiné aux animaux pour qu'ils digèrent mieux. Le père de Jean-Guy Tremblay travaillait ainsi pour les agriculteurs de Charlevoix lorsqu'il a racheté le moulin en 1948 pour le vendre 20 ans plus tard à la famille Molson. Épris de ce patrimoine aussi familial que national, Jean-Guy a pris à bras-le-corps les travaux de rénovation qui s'imposaient alors. Entre 1985 et 1992, il a rénové l'entièreté des mécanismes du moulin. Une fois celui-ci restauré, il a relancé une production de farine pour la consommation humaine. « La première année, ils ont manqué leur coup, » dit-il. « Le grain n'était pas bon. On avait juste de l'écorce. » Rien ne roule jamais parfaitement dans un tel bâtiment 2 fois centenaire. Jean-Guy Tremblay a dû réparer par 2 fois le pont qui mène au moulin. Lors du passage du devoir, il était en train de refaire la gouttière qui alimente le moulin en eau. À vrai dire, la maintenance occupe la majorité du temps d'un meunier moderne. la roue est bonne pour un bout. Le reste se change. C'est le dehors qui demande plus de temps. Ça prend plus quelqu'un capable de tout faire que d'être meunier. Des jeunes prêtent main forte de temps à autre, mais personne ne reste longtemps. Ça prendrait deux gars pendant 6 à 7 mois, juste pour la maintenance, estime celui qui, jusqu'à preuve du contraire, sera le dernier meunier des éboulements. C'était le moulin à eau des éboulements en est à ses derniers tours de roue. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 3 juillet 2024 dans Le Devoir.
Protéger la dernière rivière de l'île de Montréal, un texte de Philippe Tessera-Lessard, paru le 13 août 2024, dans La Presse. Avez-vous vu la rivière Saint-Pierre traverser Côte-des-Neiges ou la rivière Saint-Martin mouiller le vieux Montréal? Impossible, la ville les a avalés depuis longtemps. Mais la rivière à l'Orme, dans l'ouest de l'île, coule encore. La toute dernière rivière de Montréal fait l'objet d'une attention particulière, malgré sa taille modeste et son parcours parfois peu glorieux à travers une autoroute et un parc industriel. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment vivant, explique Jean-Philippe Lafleur, du service de l'environnement de la ville de Montréal. Le cours est effectivement loin d'être spectaculaire, avec son faible débit et la végétation dense qui l'enserre. On va voir souvent toutes sortes d'oiseaux. On va voir des hérons, des martins-pêcheurs. Ce n'est pas vide. C'est un beau milieu qu'on a ici, affirme Jean-Philippe Lafleur. Partout ailleurs dans l'île, les rivières ont été canalisées au fil des siècles, souvent parce qu'elles étaient utilisées comme égouts par les Montréalais de l'époque. D'autres ont été victimes du drainage des milieux humides dans lesquels elles prenaient leur source, comme le Grand Lac à la Loutre, dans le secteur de l'actuel échangeur Turcot. Monsieur Lafleur est l'un de ceux qui sont chargés de surveiller la rivière à l'Orme, dernier vestige d'une époque révolue. Plusieurs fois par été, il prend des échantillons à divers emplacements dans la rivière pour vérifier la qualité de son eau. Il la fréquente depuis plus de 20 ans. Tout près du pont du boulevard Gouin, qui permet de passer la rivière, il plonge une sonde dans un seau qu'il vient de remplir. Avec l'aide de son collègue, Maximilien Mariage, il remplit aussi toute une série de petites bouteilles. Destination, labo. Ce qui fait notre indice de qualité de l'eau, c'est un ensemble de paramètres. La microbiologie, les coliformes fécaux, la matière en suspension, comme la terre, on détecte des métaux, détaille-t-il. Et à rivière urbaine, problèmes urbains. Un des apports importants qu'on a pour la rivière, c'est le réseau pluvial qui vient de l'autoroute 40. Ça draine une grande surface et ça se rejette à la tête de la rivière, avec parfois des contaminants en provenance de l'autoroute. Une autre forme de protection. Sue Stacco prend aussi soin de la rivière à sa façon. Avec un groupe de militants, l'enseignante au secondaire a mené pendant des mois, jusqu'en 2018, un combat pour limiter le développement immobilier autour de la dernière rivière de l'île de Montréal. Les promoteurs immobiliers voulaient y ériger un nouveau quartier de près de 6000 logements. J'ai découvert la rivière une journée en faisant du vélo, relate la résidente de l'ouest de l'île, près de l'intersection du chemin de Lance à l'Orme, qui longe la rivière sur près de 4 kilomètres. Quand Sue Stacco a vu, en 2016, que du travail d'arpentage et de lotissement commençait dans le secteur, elle s'est impliquée en créant, avec d'autres, un groupe baptisé « Sauvons Lance à l'Orme ». Pétitions, pressions politiques, visites guidées publiques, une véritable campagne d'opposition au projet a émergé. Le développement n'aurait pas touché directement la rivière, qui était déjà protégée. Mais la rivière aurait été impactée, ajoute Jamie Kinsman, un des comparses de Sauvons Lance à l'Orme. Avant, c'était tout agricole ici, continue-t-il. La nature a repris le dessus, mais on peut encore voir la trace des murs de pierre que les fermiers bâtissaient. On peut marcher dans la forêt et arriver sur un mur de pierre. Leur combat a pris fin peu après l'élection de Valérie Plante à l'Hôtel de Ville de Montréal. Son administration a opposé une fin de non-recevoir au projet de développement et a plutôt exprimé sa volonté de voir naître un grand parc de l'Ouest qui inclurait notamment la rivière à l'Orme. Encore sauvage, cet immense territoire, 15 fois le parc du Mont-Royal, c'est éventuellement le service des grands parcs de la ville de Montréal qui le gérera. Ses équipes gèrent déjà plusieurs parcs qui seront englobés dans ce projet. Il y a vraiment une mosaïque d'habitats qui vient supporter une biodiversité importante autour de la rivière à l'Orme. C'est pas mal la dernière partie de l'île de Montréal qui est encore sauvage, jusqu'à un certain point. À l'est de la rivière, les anciennes friches agricoles rendues à la nature que Sauvons Lance à l'Orme voulait protéger. À l'ouest, le parc agricole du Bois de la Roche, des terres remises en culture depuis quelques années dans le cadre de projets communautaires. C'est un des parcs les plus riches en termes d'oiseaux aquatiques, ajoute-t-elle. Même chose du côté de l'herpétofaune, amphibiens, reptiles. On a aussi 14 espèces qui avaient été recensées en 2019-2020. Bref, c'est vraiment la diversité des habitats qui n'ont pas été trop perturbés encore. Ces services procèdent d'ailleurs chaque printemps à un recensement des tortues géographiques, une espèce en situation précaire dans le coin. La rivière à l'Orme, dernier spécimen de son espèce, mérite-t-elle aussi les efforts de conservation qu'on lui accorde? 8 kilomètres. C'est la modeste longueur de la rivière à l'Orme, de sa source, au sud de l'A40, jusqu'à son embouchure sur le lac des Deux-Montagnes. C'était « Protéger la dernière rivière de l'île de Montréal », un texte de Philippe Tessera-Lessard, paru le 13 août 2024 dans la presse.